Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez RTF et à maintenant, à partir de maintenant, c'est Cinéscopie, oui, votre magazine du cinéma et de la musique de film. Une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. L'actualité du cinéma, du DVD, du Blu-ray et de la musique de film, c'est tous les lundis soirs. Attention, aujourd'hui, c'est notre avant-dernière émission. Et oui, lundi prochain, ce sera la der pour la pour cette saison. On se retrouvera bien sûr au mois de septembre. Mais on est encore là. Eh bien, aujourd'hui et la semaine prochaine. Alors, l'actualité, on va commencer comme d'habitude par l'actualité de la musique de film avec tout d'abord, eh bien, la parution d'un livre consacré à James Horner. Un très bel ouvrage. Alors, d'ailleurs, serais-je tenté de dire de plusieurs livres, car en fait, ce sont ni plus ni moins que 4 livres qui seront consacrés à ce compositeur américain, James Horner. Le premier tome sort aujourd'hui. Alors attention, on ne peut le commander que sur Internet. Alors c'est vraiment un très bel ouvrage puisque l'auteur Jean-Baptiste Martin a fait des recherches vraiment très approfondies sur ce compositeur. Il faut dire que c'est un passionné, bien sûr, de James Horner. Il faut être passionné pour écrire une somme aussi considérable sur ce compositeur que vous connaissez bien sûr puisque il a écrit, vous le savez, la musique de Titanic, d'Avatar et de bien d'autres chefs-d'œuvre du cinéma. Alors ce premier tome, voilà, et, bon, on peut le commander, le précommander sur Internet. Il y a quand même un petit bémol à tout cela, c'est son prix. C'est vrai que le prix d'achat est relativement onéreux, puisqu'il faut débourser 99 euros, et oui, 99 euros pour acheter ce premier volume, qui donc c'est 400 pages, mais c'est vrai que c'est une très très belle édition, voilà, un très beau tirage qui nous attend. Donc vous avez jusqu'au mi-juillet à peu près pour le précommander, parce qu'après, bah, le prix va augmenter encore, c'est-à-dire que là, on est à tarif préférentiel, puisqu'après, il coûtera aux alentours de 129-130 euros. Donc voilà, c'est quand même un peu compliqué, parce que j'espère que les 3 volumes suivants seront un petit peu moins chers, parce que ça va nous faire un ensemble tout de même, voilà, certainement de qualité. Voilà, mais si Jean-Baptiste Martin nous écoute, bah, il peut nous appeler, bien sûr, au standard de RTF, et on discutera avec lui justement pour parler de ce livre. L'actualité de la musique de film, ce sont aussi des sorties discographique. Il y a des disques qui sortent. Et la semaine dernière, Quartet Records, le label espagnol, annonce la sortie de 2 très beaux albums. Eh bien, tout d'abord, un giallo Journée Noire pour le Bélier. Un giallo, d'ailleurs, un des meilleurs gialli jamais réalisés, avec Franco Nero dans le rôle principal. Et c'est Ennio Morricone qui a écrit une très belle partition pour ce film, pour ce thriller italien qui doit dater je crois, de 1972, dans ces eaux-là. Et la particularité aussi de ce film, Journée Noire pour le Bélier, c'est que la photographie a été assurée par Vittorio Storaro, qui est quand même un des grands chefs opérateurs, qui a travaillé avec notamment Bertolucci, et il a une carrière internationale. Donc très bon giallo que ce Journée Noire pour un Bélier, et puis bien sûr la musique de Morricone, qui paraît, donc c'est un double album, hein, on a la totale, c'est l'intégrale pour ce film. Voilà, et alors il y a une autre sortie très intéressante chez Quartet, c'est une réédition en fait, la réédition de la musique du film Papillon, le film de Franklin Schaffner avec Dustin Hoffman et Steve McQueen, et on y retrouve donc la musique de Jerry Goldsmith, qui est l'une de ses meilleures. Donc si vous aimez le grand cinéma américain de cette époque, des années 60-70, il faut vraiment vous jeter sur Papillon, parce qu'il y a, en plus, Goldsmith réussit une très belle mélodie, hein, sur cette partition. Donc franchement, 2 titres, à mon avis, incontournables, si vous aimez la musique de film et les grands classiques. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, Laurent? Voilà, pour moi, c'est un petit peu les petites nouveautés de ce début de semaine. Enfin, les petites nouveautés, elles sont conséquentes, quoique un peu onéreuses concernant la sortie du livre sur James Horner. Voilà. Et puis, on attend, bien sûr, la sortie imminente du livre consacré à Jerry Goldsmith. C'est un ouvrage en français, écrit par Yves D. Richard, et que l'on peut se procurer sur Internet chez l'éditeur Pulse Édition. Donc vous pouvez vous procurer ce livre. Alors, d'ailleurs, il y a deux livres. Hein. Il y a la biographie de Jerry Goldsmith et puis un autre livre qu'on appelle la Visual Filmography. Vous allez retrouver toutes les pochettes des albums de Jerry. Donc un beau travail qui a été accompli avec le soutien, l'appui de Olivier Desbrosses et Rafik Djoumi, qui sont les animateurs d'un site internet incontournable pour les amateurs de musique de film, c'est Underscore. Et puis ils animent également un podcast que je vous recommande qui s'appelle Total Tracks. Les derniers numéros de Total Tracks d'ailleurs sont consacrés à Mad Max, puisque le film Furiosa est actuellement en salle. Voilà mon cher Laurent. Bonsoir, cher ami.
Bonsoir à tous. Et donc, avant-dernière émission.
Eh oui.
On va essayer de faire le maximum pour vous faire partager tout ce qui concerne le cinéma. Et à savoir, comme tu faisais quelques annonces, on n'en a pas parlé, me semble-t-il, comme chaque année, chaque été d'ailleurs, je dirais, au mois de juillet, vous avez le festival Mille Une Notes. Alors, il y a une large programmation, mais je voulais m'arrêter quand même sur, en tout cas, une prestation, parce que qui nous concerne particulièrement, parce que ça intéresse quand même le 7e art. Et entre autres, une sorte, je dirais, d'hommage, de tribute à Tim Burton et Danny Elfman, par le biais d'un pianiste que l'on connaît bien, Nicolas
Horvat. Oui, puisqu'il avait déjà consacré une soirée à Joe Hisaishi, c'était l'année dernière d'ailleurs,
oui, me semble-t-il. Il avait d'ailleurs réalisé un album au passage en hommage à Joe Hisaishi et aussi, en tout cas, à travers les musiques qu'il avait composées pour le studio Ghibli. Ouais. Et là, pour le coup, c'est un large hommage, je dirais, à Danny Elfman. Alors, c'est un tribute, mais qui sera interprété au piano solo, comme il l'avait fait d'ailleurs pour Joe Hisaishi, hein, il n'y avait pas d'accompagnement orchestral. Et donc, vous pourrez voir en fait cette prestation donc, au mois de juillet. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait écouter à travers donc, cet hommage ? Eh bien, vous aurez quelques extraits d'Alice, au Pays des Merveilles, Big Fish, Édouard aux Mains d'Argent, Corpse Bride, les Noces Funèbres, Charlie et la Chocolaterie, Dumbo, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Beetlejuice, Mars Attacks, et Pee-wee Big Aventure.
C'est
déjà
bien.
Déjà une belle sélection.
Une façon déjà d'annoncer la sortie du prochain Tim Burton en salle.
Beetlejuice pour la rentrée.
Au
mois de septembre. À savoir que ça va être quand même du haut niveau parce que tout simplement il jouera sur un piano qu'on connaît bien, Steinway & Sons. Donc le must du must. Et il jouera donc à la patinoire olympique de Limoges. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Hein.
Là, c'est bien de le signaler, parce que c'est vrai que les événements en musique de film sur la région sont assez peu nombreux, finalement, et autant le signaler, bien sûr.
Alors, j'ai pas dit exactement la date, c'est le 18 juillet, à 18h30, voilà, pour être plus précis. Et bien sûr, vous pouvez réserver auprès donc de la billetterie du festival.
Merci Laurent pour cette annonce. Et bien, nous allons commencer en musique également cette émission avec. Alors, je me tourne vers Laurent parce que c'est lui qui a concocté le morceau d'ouverture de cette émission. Alors, de quel film s'agit-il ?
Eh bien, c'est pas Danny Elfman.
Ah, ça aurait pu, puisque je sais que tu as souvent de la suite dans les idées.
Hein. Oui, mais on aurait pu. Hein,
oui.
Mais bon, on a voulu surprendre ce soir.
Ah.
Et donc là, c'est un film de 2011 avec. Elle est fabuleuse d'ailleurs, elle irradie le film. Hein. Ah. Quand je vais dire son nom, je pense que bon, vous avez trouvé. Elle était d'ailleurs présente au Festival de Cannes cette année. Elle Fanning.
Elle Fanning, j'adore. Ah oui, elle est radieuse, tout à fait.
Oui, oui, oui. Elle est éblouissante. Joël Courtenay, Hayley Griffiths, Gabriel Basso, Zach Mills, Kyle Chandler, pour un film de Gigi Abrams. La musique est signée Michael Giacchino. C'est le film Super 8.
Super 8, très très beau film d'ailleurs. Voilà,
qui nous avait enchantés. Alors, ouais. Pas seulement pour l'actrice, hein, mais un film extrêmement nostalgique. Voilà.
Ouais,
parce que tout simplement, on pense tout de suite au cinéma de Spielberg à travers ce film. Il y a des petites...
pas mal de clins d'œil.
Oui, des petits clins d'œil.
Et puis, c'est aussi un film en partie autobiographique, puisque Gigi Abrams... Ben, se raconte un peu quand il était gamin lui aussi, qui tournait des films en Super 8 avec ses potes. Et d'ailleurs, il a rencontré le chef opérateur qui travaille sur Super 8, il l'a rencontré justement dans son quartier quand il était gamin. Et donc c'est une histoire d'amitié qui dure depuis l'enfance.
On pense un petit peu aussi à Stand By Me, voilà, c'est un peu dans cette ambiance-là. On est en 79, en Ohio, et plusieurs jeunes font un film de zombies à l'aide d'une caméra Super 8. Et donc, ça fait penser bien sûr à Spielberg aussi, à travers aussi toute sa jeunesse, hein, qui l'a bercé. Il a commencé à tourner avec du Super 8.
Ouais.
Pendant le tournage, eh bien, les amis assistent à un terrible déraillement de train. Et heureusement, ils s'en sortent vivants. Voilà. Mais on n'en dira pas plus si vous ne connaissez pas le film. Il faut absolument le découvrir. C'est vraiment, ça doit être présent dans votre vidéothèque. C'est vraiment indispensable.
C'est un incontournable parce que voilà, c'est un film avec plusieurs niveaux de lecture. Il y a plein de choses. Hein. C'est assez riche comme film, franchement. Et puis la photo est sublime et la musique. Alors la musique de Michael Giacchino qui est incroyable.
Ça fait partie d'une de ses plus belles, en tout cas, compositions.
Ouais.
Ça fait penser un petit peu aussi à John Williams, par certains côtés.
Tout à fait.
Donc, on est vraiment dans l'univers Spielbergien, si je puis dire.
C'est ça.
Et donc, on va écouter la suite, en fait, de Super 8. Parce que, bon, voilà, on a dit, tiens, si on faisait un must,
voilà.
Eh bien, on va écouter cette suite qui est vraiment superbe. C'est intimiste, mais en même temps aussi, c'est symphonique, avec par moments vraiment un lyrisme extraordinaire. On écoute cela, c'est interprété quand même, parce qu'il faut, quand même le préciser, par l'orchestre symphonique du studio d'Hollywood. C'est présent sur un album qui est aujourd'hui plus disponible, mais vous pouvez peut-être le trouver peut-être d'occasion, en chinant à droite à gauche. Et donc c'est le label Varese Sarabande quand il était extrêmement productif. Et très intéressant. Et là, pour le coup, bon, on reste un petit peu sur sa fin parce qu'il fait des rééditions de rééditions.
Ouais, c'est un peu décevant.
Donc, c'est souvent. Comment dire? Il bégaye un petit peu. Voilà.
On peut dire ça. Mais bon, c'est vrai. Super 8, voilà, c'est vraiment une réussite. Et moi, ça va me rappeler que j'ai vu ce film dans une salle pas très loin de Times Square à New York. Et voilà, ça va me rappeler mon séjour à New York en plus, tu vois. Donc,
c'est fabuleux, vous voyez.
C'est incroyable.
Ouais. Nostalgie quand tu nous tiens.
Oh.
Allez, tout de suite, Michael Giacchino pour Super 8. rubrique vidéo.
L'actualité du DVD, du Blu-ray, c'est tout de suite sur RTF. Mais avant de vous parler de l'actualité du DVD, je voudrais vous parler un petit peu du dernier numéro de Mad Movies. Je voulais vous en parler en début d'émission, et puis voilà, j'ai un peu zappé. Mais je vous en parle parce que c'est un numéro super intéressant, puisqu'il est consacré en partie à Roger Corman. Roger Corman, le producteur et réalisateur américain, qui nous a quittés il y a quelques jours. Et donc là, on a un dossier sur ce producteur mythique. Et franchement, je vous conseille ce Mad Movies. Voilà, il y a des interviews super intéressantes de gens qui l'ont côtoyé, comme Ion Davison, Lewis Stig, Joey Dante et d'autres. Voilà. Et alors en plus, il y a un article, alors ça n'a rien à voir avec Roger Corman, un article très intéressant sur la nouvelle version qui va sortir du film de Tinto Brass, Caligula. Alors Caligula, il y avait déjà eu en fait deux versions. C'est que il y avait la version dite de Tinto Brass, et la director's cut en quelque sorte, et puis une version augmentée de scènes pornographiques filmé par le producteur Bob Guccione. Alors Bob Guccione qui était d'ailleurs, on s'en souvient, le créateur de la revue Penthouse. Et donc Guccione avait tourné avec ses playmates des scènes porno qu'il avait donc rajoutées à ce Caligula. Et Tinto Brass s'était désolidarisé de Guccione et n'avait pas voulu d'ailleurs que son nom apparaisse au générique, en tout cas en tant que metteur en scène du film. Alors là, il y a une troisième version qui va voir le jour. C'est un film entièrement remonté que vous allez pouvoir découvrir. Un film qui dure pratiquement 3 heures, hein, c'est-à-dire que là, en termes de durée, c'est-à-dire qu'on va pas perdre, on va même gagner un petit peu en durée, et ce, même avec les scènes pornographiques qui ont été expurgées, en fait. C'est-à-dire qu'on va rester vraiment uniquement sur les rushs tournés par Tinto Brass. Voilà, donc ce sera peut-être intéressant de découvrir cette nouvelle version. Qui va certainement enrichir en tout cas les personnages. Voilà, donc on attend ça. Moi, je suis un petit peu sceptique quand même, mais bon, c'est une curiosité. Voilà, donc je vous conseille en tout cas ce nouveau numéro de Mad Movies consacré en partie à Roger Corman, parce que c'est quand même un cinéaste, un producteur majeur, un cinéaste, un producteur indépendant d'ailleurs, à Hollywood. Alors maintenant, l'actualité du DVD, du Blu-ray, oui, parce qu'il y a toujours des choses très intéressantes. Alors, il y a un film qui est sorti que je sais Laurent adore, mais on vous en parlera certainement la semaine prochaine, c'est « Sans jamais nous connaître ». Et ce film vient de sortir en Blu-ray, donc vraiment, on vous le conseille d'ores et déjà. Je crois qu'on avait dit un petit mot de Chinatown la semaine dernière. Laurent, je crois que tu en avais parlé. Le film de Roman Polanski avec Jack Nicholson, Faye Dunaway, et la musique magnifique de Jerry Goldsmith. Il faut savoir que quand même, il y a un très très beau travail sur l'image. C'est un master 4K qui nous est proposé par Paramount et franchement vous pouvez vous procurer ce film pour le redécouvrir ou le découvrir hein, si vous ne le connaissez pas encore, ça peut arriver. Il y a comme ça quelques petits classiques des années 70 que voilà qu'on a pu zapper. Bon, enfin, Chinatown, c'est un peu difficile de zapper, mais je comprends que ça puisse, voilà, je vous jette pas la pierre, ça peut arriver. Moi par exemple, j'ai redécouvert un film qui j'avais un petit peu oublié la semaine dernière sur Arte, c'est Capricorn One de Peter Yams, et franchement je trouvais le film plutôt sympa, et si on le remet dans le contexte, vraiment très intéressant. Voilà, donc film, un thriller politique avec James Brolin à Holbrook. Voilà, alors un thriller, restons dans le thriller avec cette fois-ci un thriller canadien, Les Chambres Rouges, qui relate la fascination maladive de deux jeunes femmes pour un tueur en série. Et c'est un film avec Juliette Gariepy, Laurie Babin et Elisabeth Lucas. C'est un film assez angoissant quand même. D'ailleurs, il est interdit au moins de 12 ans, tout de même, avec un final justement pas piqué des verres. Vous pouvez vous procurer ce Blu-ray édité chez ESC Éditions. L'image est absolument éblouissante. Voilà, donc d'un point de vue technique, voilà, c'est un très très beau transfert. Je vous conseille ces Chambres Rouges. Je vous rappelle ce titre. Si vous aimez les films un petit peu avec une ambiance, Silence des agneaux, un petit peu. Alors, également une petite curiosité, c'est le retour de Jean-Claude Van Damme dans un film intitulé Hatch, protection rapprochée. Alors c'est pas un chef-d'œuvre, on va le dire tout de suite, mais voilà, c'est Jean-Claude Van Damme fait le taf. Dans ce film, il joue le rôle d'un homme qui s'interpose entre les mafias russes et coréennes de Los Angeles pour protéger le fils de sa défunte petite amie. Je crois que Laurent en avait parlé, comme finalement j'ai quand même un petit doute. Voilà, mais comme on aime bien Jean-Claude Van Damme, voilà, on regardera ce film édité uniquement en DVD chez Programme Store. C'est pas un chef-d'œuvre. Il y a un autre film, un classique de Jean-Claude Van Damme, qui sort là très bientôt, c'est Bloodsport. Alors Bloodsport, c'est un des classiques entre guillemets de Jean-Claude Van Damme, un film écrit par Sheldon Lettich et réalisé par Newt Arnold. On se le cache pas, c'est totalement kitsch, totalement invraisemblable, mais Jean-Claude Van Damme, il y met sa patate. Voilà, il le fait très bien, et il faut savoir que ce film actuellement est disponible avec justement Mad Movies dont je viens de parler. Le dernier Mad Movies, on peut se le procurer en édition simple ou accompagné de son DVD. Et le DVD du mois, c'est ce film Bloodsport qu'on peut se procurer et qui est édité chez ESC Éditions en Blu-ray d'ailleurs. Donc vous pouvez, chez Mad Movies, ça sera en DVD, et sinon dans les bacs en Blu-ray ESC Éditions. Voilà, donc c'est un film quand même qui a eu un grand succès à l'époque de sa sortie. Donc c'est à ne pas négliger si vous aimez Jean-Claude Van Damme. Je voulais également vous parler d'un film de Francis Giraud, paru dans une édition d'ailleurs économique chez Gaumont, chez Studio Canal, pardon. C'est la collection Nos années 70, et le film c'est René Lacanne. Je crois aussi que tu en as parlé. J'ai l'impression de faire doublon. Ça se passe pendant l'occupation. Un gentleman cambrioleur et un policier véreux, traqués par les autorités allemandes, font les quatre son coup ensemble. Et donc, c'est Gérard Depardieu, Sylvia Christel et Michel Piccoli, musique Ennio Morricone. Voilà, c'est René Lacanne. Et c'est pas franchement le meilleur film de Francis Giraud, mais le film, je trouve, quand même, a pas mal de qualité. Et puis, on retrouve Sylvia Christel, quand même. Dans la même collection, il y a également Je suis timide, mais je me soigne. Alors, c'est une comédie plutôt réussie de Pierre Richard, où l'on retrouve Pierre Richard et Aldo Maccione sur une musique de Vladimir Cosma. Et c'est un classique de la comédie française. Hein, donc, vous pouvez y aller. Et puis, restons dans le domaine de la comédie avec Quentin Dupieux et son fameux Dali, enfin Dali, voilà Dali, qui nous est proposé chez Diaphana Édition dans deux éditions, c'est-à-dire qu'il y a deux formats en fait. Donc vous avez le choix. L'histoire, donc, c'est de. Enfin, voilà, c'est pas vraiment une bio de Dali, mais c'est un film sur l'image que Dali a envoyée, sur l'icône Dali. Et Dali est interprété d'ailleurs par plusieurs comédiens, notamment Edouard Baer, Jonathan Cohen. C'est un film de Quentin Dupieux, donc c'est un film assez singulier, comme la plupart des films de Quentin Dupieux. Voilà. Et puis, alors, oui, je voulais comme vous parler d'un film d'animation qui sort également. C'est Cendrillon. Je ne sais pas si on a parlé de Cendrillon la semaine dernière, parce que là, il sort chez Disney, et alors, dans une édition magique, parce qu'ils ont fait un travail sur l'image totalement hallucinant, une superbe restauration, et le film nous est proposé en 4K ultra haute définition.
Walt Disney entame en fait une sortie de ses grands classiques. Le mois dernier, il me semble qu'on avait eu Blanche-Neige donc dans cette même collection, et donc dans des éditions 4K. Alors ce qu'on regrette un petit peu, c'est que le Walt Disney n'ait pas soigné le packaging.
C'est
un surétui cartonné, rien de plus. Mmh. C'est un peu dommage pour vraiment ces films qui sont, on va dire, incontournables. Hein, et que bon, là, ça voulait pour le coup la nostalgie et la perfection à l'époque, le gros travail effectué. Et donc là, c'est un peu le cas, oui, pour aussi Cendrillon, qui est vraiment un des musts de Walt Disney.
Ah bah oui. Alors par contre, c'est une édition qui est bardée de bonus très intéressant. Donc là, au niveau bonus, je crois qu'on est gâté. Hein, c'est pour. Donc là, c'est l'édition. Si vous aimez Cendrillon, si vous aimez ce dessin animé de Disney, voilà, c'est incontournable, bien sûr. Et là, vous avez un travail sur l'image. Nickel chrome, bien sûr. Donc voilà, Cendrillon pour les gens comme qui sont un peu fleur bleue comme moi, voilà. Et puis je peux quand même aussi vous citer un autre film d'animation que j'avais vu à l'époque, j'en avais parlé dans Cinéscopie, c'est Le Château solitaire dans le miroir. L'histoire de sept collégiens qui découvrent que les miroirs de leurs chambres respectives sont des portails vers un château magique où une fillette au masque de loup les met au défi de trouver une clé cachée capable d'exaucer un vœu. Alors ce château solitaire dans le miroir, c'est l'adaptation d'un roman très célèbre au Japon, c'était vraiment un très grand succès, et qui évoque en fait une thématique qui est tout à fait d'actualité dans nos sociétés, c'est le harcèlement scolaire en particulier, voilà. Donc tous ces enfants évidemment sont victimes de violences, soit intrafamiliales ou alors à l'école. Donc c'est un film assez beau d'ailleurs, mais un peu long quand même. Il dure pratiquement 2 heures. Et moi j'avais quand même le bémol que j'avais amené, c'est que tout de même l'animation est un petit peu figée. Je trouve que pour un film qui adapte quand même un roman à succès au Japon, ils auraient peut-être pu faire une animation peut-être un peu plus fluide, un petit peu plus spectaculaire.
C'est un petit peu le retour que j'en avais. Et quelque peu un petit peu bavard aussi par moment. Hein.
Oui, alors ça c'est bavard, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc voilà, ça c'est un petit peu le. Alors le film est édité chez Eurozoom en Blu-ray. Et bon voilà, c'est quand même intéressant. Et ça permet évidemment d'aborder cette thématique. Mais je me souviens que j'étais un petit peu déçu. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus réussi en termes d'animation. Et ça reste un petit peu, je dirais presque un peu télévisuel dans le fond, quoi. Mais ouais, je suis un peu méchant parce que comme le film est pas trop mal, mais un petit peu en deçà de ce que j'en attendais personnellement. Et puis, peut-être un dernier dessin animé. Alors là, par contre, c'est quelque chose d'assez rare et qui nous est proposé par Extra Lucid Film, c'est The Spine of Night. Alors là, on est dans l'Heroic Fantasy. C'est un dessin animé réalisé en 2021 par Philippe Gellat et Morgan Gallen King. Une sorcière raconte aux gardiens d'une fleur magique la lutte de héros successifs afin d'éviter qu'une magie noire tombe aux mains du mal. Une sorte de film à sketch. Voilà. C'est un dessin animé qui n'est pas sans évoquer d'ailleurs les films en rotoscopie de Ralph Bakshi comme Tigra, La Glace et le Feu. On se souvient aussi de l'adaptation du Seigneur des Anneaux en dessin animé. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de bonus. Et en termes techniques, ben voilà, une très belle qualité d'image et de son. Donc ça s'appelle The Spine of Night. C'est une très belle redécouverte. Et franchement, tous ceux qui aiment l'Heroic Fantasy pourront y trouver leur bonheur. Eh bien, Laurent, je te laisse le micro.
Très bien. on va commencer par un film. J'espère que tu n'en as pas parlé. Je ne sais pas, parce qu'on ne sait plus. Un film de guerre. Film production allemande de 2020 de Florian Gallenberger avec Yanis Nivener, Malgorzata Mikolaczak et Sébastien Urzędowski. C'est Lost Soldier.
Ah, j'en ai pas parlé.
Ou De l'autre côté du front, titre français, qui raconte l'histoire d'un jeune soldat allemand. On est en 1944, non fanatisé, ayant pourtant refusé de déserter malgré la débâcle annoncée de la Wehrmacht, et qui commence à douter du bien fondé de son engagement. Et donc, c'est un regard assez désabusé sur les horreurs et les conséquences ironiques et injustes d'un conflit dont le réalisateur ne cherche ni à enjoliver, ni à minimiser les tenants et les aboutissants, mais choisit plutôt, comme fil conducteur principal, l'histoire d'amour contrariée que le jeune homme vit auprès d'une résistance du camp adverse. Pour le coup, un film très intéressant et qui est déjà sorti en DVD, en Blu-ray, chez l'éditeur Condor Entertainment, et donc dans une très très belle copie. Et je vous invite donc à découvrir ce film, ma foi, assez original dans son traitement. Et donc, foncièrement, ça reste là aussi un bel achat, en tout cas.
Oui, ça donne envie de découvrir.
On continue. Alors là, par contre, dans le côté un petit peu énigmatique, je sais que vous aimez aussi les thrillers avec des petites enquêtes. Tsui-Hark avait déjà réalisé ce genre de film. Et là, pour le coup, c'est un film estonien. Et c'est, on peut dire, le deuxième épisode. Il n'y a pas forcément de suite, mais c'est dans la collection Melchior l'apothicaire, et là c'est le deuxième volet qui s'intitule Le spectre de la rue du Puits, donc réalisé par Elmo Nuganen avec Martin Metsavir, Monjra Johanna Maggi et Allo Curve. Film déconseillé au moins de 12 ans et qui raconte, parce qu'on est au 15e siècle, à Tallinn, un jeune apothicaire qui enquête sur une série d'étranges décès qui auraient un rapport avec le fantôme d'une jeune femme noyée. Ce second opus, inspiré d'ailleurs du roman d'Indrek Argla, qui entraîne son personnage dans une enquête excessivement tendue, riche en suspense et en retournement de situation, où la religion, la sorcellerie et les superstitions sont de mise. Un polar médiéval, dense et accrocheur, et c'est encore Condor Entertainment qui vous le propose. Alors, la seule petite déception, c'est qu'il n'y a pas de haute définition, il n'y a qu'une édition DVD pour ce film, et c'est un petit peu dommage. Et donc, c'est dans tous les bons linéaires, c'est déjà, je l'ai aperçu, donc voilà, vous pouvez vous le procurer dans une très très belle copie. On reste dans le thriller avec un film coréen, Corée du Sud, de Eom Tae-hwa, avec Park Seon-joon, Lim Byung-hun et Park Bon-young. le film s'intitule Concrète Utopia. Peut-être qu'on en a parlé, je ne sais plus.
C'est possible, mais je crois qu'on en a dit peut-être un petit mot, effectivement. Mais c'est bien de le rappeler, parce que c'est quand même intéressant, ça, comme film.
Voilà, ça raconte l'histoire d'un groupe de survivants, alors qu'un tremblement de terre a détruit Séoul, et qui se réunit dans le seul complexe d'appartements resté debout. Donc c'est entre le film catastrophe, on va dire, d'anticipation, dramatique, et Concrète Utopia développe un récit post-apocalyptique, frontal et particulièrement brutal, dans lequel tous les bassesses humaines sont représentées entre le vol, la dénonciation, la dissimulation, la lâcheté, la vengeance. Une œuvre cathartique, hein, forte et violente, au casting approprié et à la réalisation assez pointu, et on le doit à l'éditeur The Jokers, qui vous le propose là pour le coup en DVD et en haute définition. On poursuit, et là avec un petit film, un western.
Alors, de temps en temps, c'est bien.
Qui n'est pas foncièrement original, mais en tout cas qui fait le taf. C'est le film de Brett Donohoe, avec Nicolas Cage, Ryan Kieran Strong, Noah Legros, film bien sûr américain de l'an dernier. Ça s'intitule The Old Way. Ça raconte l'histoire d'un ancien tueur lorsqu'un gang de hors-la-loi assassine sa femme, et qui est devenu épicier et qui décide de les traquer et amène sa fille de 12 ans avec lui. Alors c'est vrai que on a l'habitude chez Nicolas Cage depuis quelques années, il a la fâcheuse tendance souvent de faire des mauvais choix en dehors d'ailleurs de quelques films comme Pig et Dream Scenario, et à surinterpréter. Et The Old Way, somme toute, eh bien, ma foi, remplit le contrat. On pense souvent au film d'Eastwood, hein, impitoyable, mais quand même, avec quand même un sacré ton en dessous. mais pour le coup, c'est un film, un western, comme on les aime, même si par ça et là, c'est un petit peu, par moments, un petit peu, il y a quelques lenteurs, mais bon, ça fait le taf, voilà, bon divertissement, sans plus.
Il me semble que l'actrice, la gamine qui joue là-dedans, là, Ryan. Comment que tu m'as dit, Kieran Armstrong, je crois.
Oui.
C'est elle qui joue le rôle.
Kieran Armstrong.
Ouais. Ah voilà. Elle a un nom un peu compliqué. Hein. J'espère qu'on va s'en souvenir parce que elle est excellente dans Furiosa, puisque c'est elle qui joue le rôle de Furiosa quand elle est petite, justement.
Tout à fait.
J'avais trouvé très 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 bien dans le film.
Alors, c'est un petit éditeur, Program Store. Là, pour le coup, et c'est un petit peu dommage pour un western, c'est qu'il n'y a qu'un DVD qui existe. Et il n'y a pas de haute définition.
Voilà. À noter que Nicolas Cage revient prochainement au cinéma dans un film d'horreur, Long Legs. On voit la bande-annonce actuellement en salle. Ça s'annonce assez sympathique, hein, ce projet. Une tente de le découvrir sur grand écran.
Bon, on espère que ça sera réussi. Eh bien, on poursuit. Alors, un film de Sean Durkin. Alors là, on change carrément de registre, un film dramatique, avec Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, coproduction américano-britannique, pour ce film de l'an dernier. Ça s'appelle Iron Claw. L'histoire de la fratrie Von Erich, catcheur professionnel dans les années 80, entraîné d'une main de fer par leur père tyrannique. C'est plus qu'un simple film biographique, hein, Iron Claw se présente comme une tragédie qui ne se contente pas de narrer le quotidien d'une famille de catcheurs, mais creuse plus profond dans la société de l'époque, en tirant à boulet rouge sur l'illusion du rêve américain. Et c'est l'éditeur Metropolitan qui le propose en DVD et en haute définition dans une excellente copie.
Oui. Voilà. On avait vu le film d'ailleurs à l'époque, qu'on avait bien aimé, on l'avait défendu à cette antenne.
Vous savez, le support physique aussi, ça fait partie de créer un petit peu l'étonnement. Et là, pour le coup, ben, on le doit à l'éditeur LCJ, qui propose un film de Philippe Condroyer, avec Didier Sauvegrain, Gilbert Baon, Marius Balbino. La musique est signée Antoine Duhamel, pour un film de ce film français de 1974, La coupe à 10 francs, qui raconte, on est à la fin des années 60, l'histoire d'un jeune ébéniste et de ses collègues qui sont sommés par leur patron de se faire couper leurs cheveux longs s'ils veulent conserver leur emploi.
Oui, finalement, ça reste d'actualité. Hein,
c'est ce que j'allais dire.
Parce que périodiquement, on entend ce genre de
choses. Et donc, c'est adapté d'un terrible fait divers. Et ce film est à redécouvrir d'urgence pour sa nature protestataire. Ouais. Et dans une très très belle copie, chez LCJ, en DVD et en Blu-ray. On peut féliciter le travail de LCJ parce que c'est pas toujours le cas. Donc, en tout cas, voilà. Pour ce film relativement ancien, ouais. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, oui, d'autant plus que c'est un titre qu'on connaît, La coupe à 10 francs, mais c'est un film qu'on ne pouvait plus voir, et ouais, c'est une bonne initiative. Bon, franchement, donc bravo à LCJ, ouais, qui fait un travail éditorial assez intéressant. Il faut que ça continue, LCJ, c'est très bien.
Oui. Alors, et puis, alors, quelques petites annonces quand même, ça et là. Alors, une mauvaise nouvelle. Alors concernant le film qui a remporté l'Oscar 2024 des meilleurs effets visuels.
Alors attends. je sais déjà plus. Non, vas-y, The Creator.
Pas du tout. Non, pas celui-là. Qui est sorti d'ailleurs dans les salles françaises de manière assez atypique d'ailleurs.
Ah, ça y est, si, ça y est.
En deux fois sur décembre. Et février.
Ouais, je vois.
Et ce, pour quelques jours seulement.
Alors, c'est l'histoire de Godzilla.
Voilà, Godzilla Minus One.
Ouais.
Et donc, il y a eu une édition qui est sortie au Japon. Très très belle édition. En Ultra HD Blu-ray dans un coffret 4 disques. Mais bon, c'était un petit peu coûteux quand même, c'est un import japonais forcément, donc voilà. Et on le devait au studio Toho, qui est le créateur en fait du mythe Godzilla, en 1954. Et alors, on s'interroge sur la stratégie assez particulière, que ce soit d'ailleurs sur la sortie cinéma et la sortie vidéo, parce que il est quand même fort probable qu'à l'international, en tout cas en ce qui concerne le support physique, eh bien que ce support physique ne soit annoncé, s'il est annoncé, qu'en fin d'année. Donc aux États-Unis et aussi en France. Voilà.
Ah bon, ça va peut-être arriver quand même alors.
Peut-être.
Mais à la fin de l'année.
Mais aucune certitude en tout cas.
Dommage parce que c'est vrai que je trouve que c'est un des meilleurs Godzilla, celui-ci. Moi, j'avais pas mal aimé finalement. Ça
oui,
fonctionne
oui,
bien.
Oui, oui. Mmh. Et puis alors, la surprise de cette année.
Ouais.
On a vu le film hein, tous les deux.
Ouais.
Ça sort le 17 juillet. Et ça a été un film assez phénomène. Film italien.
Ah oui.
Sur la situation des femmes romaine dans l'immédiate après-guerre, qui a rencontré un excellent écho en France. Mmh. Parce que je vais vous dire, ça, pour un film comme cela, c'est quand même à marquer d'une pierre blanche. 600 000 spectateurs en France,
ouais.
C'est énorme. Et le film, c'est il reste encore demain.
Mmh.
Et c'est Universal qui sera l'éditeur de ce film en noir et blanc. Qui sortira donc en DVD, en Blu-ray, le 17 juillet. Donc,
ah, ça, c'est bien,
bientôt.
C'est une bonne nouvelle.
Ouais. Et donc, ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. On sera, bien sûr, très certainement sur les rangs pour ce film.
Oui, alors, mais nous, on a 600 000 entrées, mais en Italie, je crois que c'est 5 millions de spectateurs.
Hein, oui. Oui, mais bon, après, voilà. En tout cas, les éditeurs, distributeurs, enfin c'est pas qu'ils croyaient pas en ce film, mais en tout cas le résultat dépasse toute espérance. Et donc là c'est plutôt une bonne chose.
Et moi j'ai beaucoup aimé le film, et la réalisatrice et actrice du film d'ailleurs, hein, qui est sublime, je trouve. Voilà. Moi j'ai découvert, je la connaissais pas, et franchement le film fonctionne très bien, et c'est un bel hommage à la comédie néo-réaliste des années 50.
Oui. Alors c'est pas une surprise, hein, parce qu'on en avait parlé dans Cinéscopie. En tout cas, moi j'avais adoré le film, déjà par sa prouesse, qui était vraiment assez extraordinaire. C'est un film qui est adapté du roman écrit par le prix Nobel de littérature Wladyslaw Raymond, et nimbé par les couleurs et les images de nombreux tableaux de peintres célèbres des 19e et 20e siècles. L'impressionnante coproduction d'animation polonaise en rotoscopie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film.
Si tu avais adoré ce film, mais alors, le titre m'échappe là.
Le titre, c'est La jeune fille et les paysans.
Ah oui.
Et donc ça paraîtra chez l'éditeur Jokers en DVD et surtout en haute définition, parce que c'est un film qu'il faut voir absolument en haute définition, vu le travail qui a été effectué, le 10 juillet, donc c'est pour bientôt.
Ah, je sais que tu avais été ébloui par ce film.
Voilà, et un film qui a eu là aussi un beau succès en salle, et on n'y croyait pas vraiment, et donc franchement, voilà, il faut défendre ces belles initiatives, parce qu'il y a vraiment un gros travail derrière, et un travail... En grande partie artisanale, manuelle. Donc ça, c'est
plutôt intéressant. Ah oui, ça devait être une entreprise de longue haleine.
Ouais. Allez, on peut annoncer quelques...
Petite dernière pour la route.
Allez, une petite dernière pour la route. Alors, une déception, mais bon, il y a peut-être des éditeurs qui nous écoutent.
Ouais.
Hein. Alors, un film qui a eu, bien sûr... les privilèges du support physique, mais on l'attend toujours en très haute définition. C'est le film de Luchino Visconti, Le Guépard, parce que bon, quand même, c'est un film qui s'y prête, hein, par les costumes, les décors, les paysages, et pour les visages de ses acteurs, en premier lieu, bien sûr, Claudia Cardinal, Alain Delon, Burt Lancaster, et donc c'est Pathé qui a les droits de ce film. Et malheureusement, pour l'instant, mais il y a pas de nouveauté, c'est pas annoncé. Voilà, pour ceux qui voudraient faire un investissement, en tout cas sur ce film, ben c'est pas pour tout de suite. Par contre, ça n'a aucune, sans aucune comparaison, un film de 1987, italo-américain, qui va débarquer. En édition combo Blu-ray plus DVD qui a été restauré récemment en 2019. Il y aura pas mal de bonus d'ailleurs sur l'univers du film, le tournage, l'interview du metteur en scène, les galeries de photos et cerise sur le gâteau, un entretien avec David et Peter Paul, les deux héros bodybuildé de ce fantasmagorique nanar qui n'est autre que les Barbarians.
Eh oui.
Et donc c'est le 5 juillet et c'est Sidonie qui sera en fait l'éditeur pour ce film de 1987, film de Ruggero Deodato.
Oui, évidemment, on l'avait connu plus inspiré, Ruggero Deodato, mais ça reste un film quand même de bonne facture. Il y a une belle photo, la musique de Pino Donaggio est vraiment très bien. Et bon, voilà, on peut lui trouver des qualités. Et puis alors, en plus, il y a quand même quelques comédiens, quelques tronches du cinéma bis que l'on croise dans ce film, donc comme Michael Berryman par exemple. C'est assez sympa comme film. Alors si vous aimez voilà vraiment les nanas, hein, comme ce qu'on appelle les mauvais films sympathiques, voilà, ça en fait partie.
Allez, maintenant on va terminer en beauté. Alors là, ça sort toujours le 10 juillet. C'est pour ça que souvent l'été est souvent, on va dire, une période assez creuse.
Ouais.
Mais là, pour le coup, pas vraiment, parce que
choses qui sortent.
Il y a des petites choses qui sortent et c'est pas forcément, en tout cas, des rééditions, loin de là. Et donc là, c'est un film de 1987.
Tout comme les Barbarians, d'ailleurs, de 1987. Donc, c'est l'année 87 qui est à l'honneur. Oui.
Et donc là, pour le coup, c'est un film qui a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique, entre autres. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est une coproduction, donc Canon et Francis Ford Coppola, comédie dramatique.
Ça serait pas ça serait pas Cassine Turner dedans? Non, pas du tout.
Pas du tout.
Barbara Hershey.
Non plus.
Non plus. Bon, bah, j'ai tout faux.
Alors ça va sortir chez ESC avec Faye Dunaway.
Ouais. Attends, ça me dit quelque chose. Barfly, non, c'est pas ça.
C'est Barfly. Avec Mickey Rourke dans une très très belle édition, donc DVD et Blu-ray. Avec, bon, je pense que c'est une édition Mediabook, parce qu'il y aura donc un livret de 32 pages, avec des bonus sur le making-of, la leçon de cinéma consacrée au réalisateur Barbet Schroeder.
Oui, alors c'est un film que, tu vois, je n'ai pas vu à l'époque, et que j'aimerais bien redécouvrir. Et c'est l'époque où Canon Film essaie de s'acheter une sorte de respectabilité, justement, en engageant des réalisateurs prestigieux comme Barbet Schroeder, Jean-Luc Godard aussi, qui a été sous contrat avec Canon, c'est incroyable, mais c'est vrai. Et donc, voilà, Canon essaie d'aller sur des films plus ambitieux, plus autorisants, on va dire, et Barfly en fait partie, et donc je suis assez curieux de découvrir ce film de Barbet Schroeder.
Eh bien voilà, c'est quelques petites nouveautés. Alors il y en a d'autres, on en donnera un petit peu quelques petits scoops la semaine prochaine. Dernière. Voilà, vous aurez de quoi éventuellement agrémenter vos soirées d'été.
Tout à fait. Eh bien, je voudrais aussi vous signaler sur une plateforme, bon, je la cite, la plateforme, c'est Shadows, consacrée au cinéma d'horreur et de science-fiction, un documentaire intitulé Panico, et qui est consacré à Dario Argento. Alors, ceux qui sont fans de Dario Argento n'apprendront pas grand-chose sur ce cinéaste. Enfin, ceux qui connaissent le nom de Dario Argento, en tout cas, vont apprendre des tas de choses, et ça s'appelle Panico, et c'est sur Shadows. Alors découvrez ce documentaire, et découvrez l'univers de Dario Argento. Eh bien, nous allons faire une pause musicale, avant de vous parler des films à l'affiche. Une pause musicale, Laurent, que nous as-tu préparé ?
Alors, on va changer un peu de registre musical,
oui.
Du bon jazz.
Ah, le jazz, ça fait du bien le jazz.
Et là, pour le coup, sur un film de comédie d'action de 91.
Ah oui.
Film réalisé par Michael Lehman.
Ouais.
Avec au casting Danny Aiello, Frank Stallone, James Coburn, Lorraine Toussaint, mais surtout Andy McDowell. Et Bruce Willis pour le film Hudson Hawk, Gentleman et Cambrioleur.
Là, c'est une superbe comédie dont le ton a désarçonné, on va dire, tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ça. Et je pense que même les fans de Bruce Willis attendaient un film d'action un peu lambda. C'est pas du tout ça. Et franchement, j'ai trouvé le film jouissif. Il y a beaucoup de décalage dans le film. Il y a un ton comme ça, très particulier. Et franchement, pour moi, ça reste un film culte. Et je pense que c'est un des films un peu sous-évalués de cette époque, qu'il faudrait justement, qui mériterait peut-être de ressortir dans une belle édition bardée de bonus. C'était déjà paru, mais
je crois que oui, il me semble Carlotta qui avait sorti le film, mais dans une édition, on va dire, pas correcte, mais voilà,
sans plus. Ouais. Voilà.
Et donc là, pour le coup, la musique est signée Michael Kamen.
Et, ouais.
Et on va écouter une suite. Et quelle suite ? Parce que là, vous allez voir, vraiment une maîtrise totale dans le registre du jazz. Ah ouais. Et donc,
c'est un des meilleurs rôles de Bruce Willis, hein, ce Hudson Hawk. Ouais,
tout à fait. Donc, allez, on écoute cela et on se retrouve juste après. Ça dure à peu près un petit peu plus de 5 minutes pour la sélection des films de la semaine. Et on en a vu quelques-uns, hein, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà. Allez, tout de suite, Michael Kamen. les films à l'affiche ce soir.
Dissidente et Les Guetteurs. Voilà les deux films dont nous allons vous parler ce soir. On voulait vous parler, mais on n'aura peut-être pas le temps de le faire, de Love Lies Bleeding. On vous en parlera la semaine prochaine. Oui. Mais déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que le film mérite d'être vu. Donc, c'est tout ce qu'on peut vous dire, parce qu'on n'aura pas le temps, évidemment, de... Ce film mérite, évidemment, qu'on en parle.
Je pense que c'est un film où il faut...
Il faut qu'on s'y attarde un peu, et donc on vous en dira, évidemment, plus lundi prochain. En tout cas, le film de Rose Glass est actuellement à l'affiche, avec Kirsten Stewart, qui est vraiment excellente aussi. Mais voilà, ce sera la semaine prochaine. Alors, on va vous parler, donc, de films...
Et on vous parlera aussi du film italien Gloria.
Oui, ça aussi. Sera la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Gloria, qui est là aussi, on peut déjà vous le dire, un film, enfin, en tout cas, intéressant. Donc, on peut pas parler de tout ce soir. Alors, ce soir, on parle de Dissidente et du film Les Guetteurs. Alors, je sais pas pourquoi on commence, Laurent, dis-moi...
On peut parler de Dissidente parce que c'est un film qui est un petit peu plus ancien.
Oui, on commence par Dissidente, oui.
Voilà. En sachant que si vous voulez aller le voir, il faut un petit peu se précipiter parce que mercredi, il n'est plus à l'affiche.
Donc vous avez encore demain pour aller voir Dissidente.
Il est sorti le 5 juin et donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Voilà. donc c'est une coproduction. Alors, quand on voit le sujet... C'est un petit peu surprenant, mais en tout cas, c'est une coproduction franco-canadienne pour ce film qui a reçu le grand prix d'interprétation féminine pour Ariane Castellanos, qui est assez impressionnante d'ailleurs dans le film, et aussi qui a reçu le prix du public. Et ce premier long, qui a trusté les trophées majeurs du festival de Saint-Jean-de-Luz. Donc ce film de Pierre-Philippe Chevigny, avec Ariane Castellanos, Marc-André Grondin, Nelson Coronado. Film alors vraiment d'une actualité, je dirais, débordante. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le film marche aussi bien, parce qu'il y a un bouche à oreille qui fonctionne à merveille pour ce film. Et donc, en fait, ce premier long donc, qui a remporté aussi des trophées majeurs au festival de Saint-Jean-de-Luz, et ce n'est que justice parce que, embrassant une réalité sociale au Canada, une main-d'œuvre. Guatémaltèque exploité sans scrupules, Pierre-Philippe Chevigny s'appuie sur un travail d'enquête documenté pour développer une fiction centrée sur Ariane, une femme qui est embauchée comme traductrice dans une usine québécoise et qui va se rebeller contre cette forme d'esclavage moderne, bien qu'en situation financière délicate, elle aussi. Et donc, forcément, on pense tout de suite au réalisateur, je dirais, mythique, britannique, qui a fait sa carrière, qui a assis sa carrière de cinéma social, c'est Ken Loach. Dans le parcours de cette héroïne qui est coincée entre le marteau et l'enclume et qui cependant n'a rien d'une simple copie grâce à la manière avec laquelle Chevigny filme donc son actrice et son personnage principal. Et donc toujours au plus près d'elle, avec un sentiment d'étouffement, donnant ainsi naissance à un film en immersion qui ne laisse pas indemne, parce qu'on voit véritablement la malhonnêteté des employeurs et du système aussi canadien qui ferme les yeux et qui cautionne un petit peu ce fonctionnement-là, qui participe pleinement à l'économie. Donc c'est vrai qu'on est assez surpris parce que on reste quand même sur une image très, je dirais, très humaine du monde du travail canadien. Et on est quand même vraiment bien loin du compte, surtout si, en tout cas, le fait qui nous est rapporté est plutôt une généralité. Voilà. Donc franchement, c'est un film à découvrir par sa dimension culturelle et pour peut-être noircir une image qui n'est pas si rose que ça. Donc dans le monde du travail canadien, dans la société canadienne. Donc je pense que c'est aussi pour cela que ce film fonctionne, parce que tout simplement c'est une fiction, mais on est quand même relativement très proche, très certainement, de la réalité qui nous est contée. Donc c'est bien tourné. En plus, c'est un film qui est vraiment excessivement tendu, parce qu'on a 1h29 de durée, donc vraiment il n'y a pas de temps mort. Juste le temps de mettre en place, je dirais, l'histoire et des protagonistes, et ça fonctionne à merveille. Donc je vous invite à le découvrir. Et si ça et là, eh bien vous parcourez la banlieue limougeaude, eh bien vous pouvez peut-être le découvrir dans des petits cinémas. Et je vous invite bien sûr à aller le voir. Donc oui. Le film s'intitule Dissidente.
Voilà. Donc on sera fidèle au rendez-vous. Nous irons le voir en périphérie. Je pense que le film va avoir poursuivre sa carrière en province. Autre film, Les Guetteurs, le film réalisé par Ishan Shyamalan. Alors en fait, c'est la fille, je vérifie que c'est bien, Ishana, pour être exact, Ishana Knight Shyamalan. C'est la fille, oui, de M. Knight Shyamalan. C'est sa première réalisation pour ce film produit par son père, d'ailleurs. Alors c'est un film, je vous en parle ce soir, pourquoi ? Parce qu'il est pas mal, il est plutôt décrié. C'est-à-dire qu'en fait, il est mal reçu par la critique en général, et pas très bien non plus par les spectateurs. Voilà, alors moi j'y suis allé avant de lire quelques critiques que ce soit, alléché par la bande-annonce de ce film. Et voilà, déjà ce qu'on peut dire, parce que parlons déjà un peu du casting. Il y a dans ce film une actrice que j'aime bien, et puis que ça faisait un bout de temps que j'avais pas vu dans un premier rôle, c'est Dakota Fanning. Tout à l'heure, Laurent nous parlait d'Ellie Fanning dans Super 8. Dakota, c'est sa sœur, hein, voilà. c'est sa grande sœur.
Oui. Qui sont tous les deux plastiquement irréprochables.
Oui, oui, et puis très bonne comédienne. Et Dakota Fanning qui retrouve un rôle un peu comme dans Cloverfield, c'est-à-dire qu'elle se retrouve, elle s'égare dans une forêt. Alors ça se passe en Irlande, ça se passe en Irlande. Et en se rendant à Belfast, elle s'égare dans une forêt et elle doit trouver refuge à la tombée de la nuit dans une sorte de bunker. Qui abrite d'autres personnes d'ailleurs. Et en fait, il s'avère qu'une fois la nuit tombée dans cette forêt, apparemment d'étranges créatures, des créatures dangereuses rôdent, et il faut donc se barricader dans ce bunker pour échapper à ces créatures. Et donc, ça commence comme un épisode de la quatrième dimension, où finalement ces individus sont observés de l'extérieur par des créatures. Ça me fait penser à un épisode de la quatrième dimension. Et donc ça commence comme ça. C'est un concept à la Shyamalan, parce qu'évidemment dans les films de Shyamalan père, il y a toujours un concept assez fort. Je trouve souvent d'ailleurs que souvent ça accouche un peu d'une souris, c'est-à-dire que en gros ces films, les films de Shyamalan, bon ouais ok, il y a une idée forte au départ, mais finalement tout ça pour ça, ça ferait ce que je disais à Laurent tout à l'heure hors antenne, les films de Shyamalan, bien souvent, ça ferait d'excellents épisodes de la quatrième dimension, justement. Et donc, moi, j'avais peur, justement, que finalement, cette histoire finalement ne mène pas à grand-chose. Et alors là, c'est un petit peu la surprise. C'est-à-dire qu'il y a quand même, dans la deuxième partie du film, il y a quand même une véritable histoire, et qui s'appuie sur la mythologie celtique. Alors je veux pas trop en dire, parce que ouais, ça serait divulgâché. On va pas divulgâcher, mais il y a quand même donc une histoire avec d'ailleurs une conclusion assez surprenante, qui appelle, disons-le aussi, quand même une suite. C'est-à-dire que si le film devait marcher, apparemment, bon, c'est pas trop le cas pour l'instant, on ne serait pas surpris d'avoir une suite assez guetteur. Alors pourquoi il y a une histoire, finalement, pour une fois, dans un film de Shyamalan ? Tout simplement parce que c'est l'adaptation d'un roman. D'ailleurs, on ne l'apprend qu'à la fin, parce que le générique, il n'y a pas beaucoup de générique début, on apprend tout à la fin. Voilà, donc il y a un roman, et donc du coup, ça, moi j'ai trouvé le film assez intéressant. Alors, par contre, c'est vrai que si on s'attend à voir un film d'horreur, on va être un petit peu déçu. Il y a bien quelques scènes, bon, impressionnantes, mais enfin, bon, on a vu bien pire ailleurs. Si on s'attend à un film d'épouvante pure, là aussi, on va être déçu. On va pas beaucoup sursauter. Et voilà. Non, en fait, c'est autre chose. On est dans un film fantastique, avec une intrigue. Parfois, je pense qu'il y a quand même quelques petites facilités scénaristiques. Ou alors, moi, j'ai pas tout compris. Hein, voilà. Mais bon, il faut qu'on m'explique tout, hein, bien. Voilà. Voilà. Alors, en plus, il y a quand même, faut reconnaître à Ishana Shyamalan, une qualité, c'est qu'elle a le sens du cadre, elle sait filmer. Alors, on peut peut-être se dire que le père est derrière, hein, parce que bon, c'est ça qui est un petit peu gênant. On peut se dire, tiens, peut-être que papa Shyamalan, il est peut-être derrière la caméra. On sait pas. En tout cas, c'est le producteur. Donc non, elle, si on au bénéfice du doute, on reconnaît à Ishana Shyamalan le fait qu'elle sait filmer. C'est l'image, ouais, une très belle photographie, une très belle image. Le récit, quand même, plutôt globalement bien mené. La musique est pas trop mal pour ce type de production. C'est Abel Korzeniowski qui la signe. Voilà. Et le casting est plutôt convaincant dans son ensemble. Voilà. Donc, écoutez, moi, évidemment, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, loin de là. Mais j'ai trouvé que c'était un film tout à fait honorable. Et moi, je comprends pas. Je trouve que le film, on casse beaucoup de sucre sur le dos de ce film. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'il a ses qualités. Mais alors, il faut aller le voir non pas comme un film d'horreur ou un film d'épouvante, parce qu'il vraiment il change d'orientation à la moitié du film. On passe vraiment sur autre chose. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Voilà, ça s'appelle Les Guetteurs. Il y a une très belle affiche d'ailleurs aussi. L'affiche donne envie de voir ce film. Voilà. Alors bon, j'ai vu que la moyenne sur Allociné, la moyenne spectateur, c'est, je crois que c'est 2,6 sur 5, hein, ou 2,6 ou 2,7. Moi, franchement, je lui donne pratiquement 3,5 sur 5. Voilà. Donc, vous pouvez y aller, sachant que, quand même, on est, allez, sans divulgâcher, on est dans la deuxième partie du film, dans un univers un peu roman jeune adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu, hein, on est un petit peu là-dedans. Voilà. Donc, le film, bon, franchement, n'est pas déshonorant et moi, je demande à voir un autre film d'Ishana Shyamalan, parce que là, elle m'a un petit peu hypé. Je me dis, il y a du potentiel et il ne peut que s'épanouir à l'avenir. Voilà, donc allez voir Dissidente, ça c'est sûr, c'est l'incontournable de la semaine. Et puis vous pouvez quand même aller voir Ces Guetteurs, qui ne sont pas du tout aussi mauvais que ce qu'on nous dit dans la presse ou par ailleurs. Mon cher Laurent, une petite pause musicale, il est 22h14, bientôt la pendule de RTF.
Oui, et là c'est plutôt la nostalgie d'une série de films qui ont débuté, enfin le premier film débuté en 1964 avec Michel Mercier, Robert Hossein. C'est cette saga d'Angélique, donc cette saga réalisée par Bernard Bordery. Bon, qui a bercé toute notre enfance.
Ah oui.
Et donc là, pour le coup, On va écouter la musique signée par un grand compositeur français, Michel Magne, et qui est plutôt célèbre d'ailleurs par le thème.
C'est un de ses tubes.
Oui. Et donc, on peut que remercier Stéphane Le Rouge à l'époque, qui avait sorti l'intégralité de Angélique, Marquise des Anges, sur un très bel album. Et donc, on va écouter, ma foi, un extrait qui s'intitule Angélique reprend espoir. Et donc, avec ce magnifique thème au piano, qui est incontournable. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, forcément, vous allez vous demander, d'accord, je l'ai déjà entendu, mais je ne savais pas exactement de quel film c'était tiré. Eh bien, voilà.
Et puis en plus, Angélique Marquise des Anges, sous ses allures de cinéma populaire, c'était quand même une... Il y avait une dose d'érotisme quand même non négligeable.
C'est vrai.
C'est une façon un petit peu de se rincer l'œil.
De mémoire, je crois que c'est une saga qui n'a pas encore mérité la haute définition. Et c'est fortement dommage. J'espère que y aura en tout cas l'éditeur historique qui va se lancer dans cette très très belle restauration. Parce que c'est une saga qu'on revoit toujours globalement chaque été d'ailleurs. Ouais. Ça fait partie des rediffusions sur le petit écran.
Robert Rossen, Michel Mercier. Et Michel Mercier qui est au summum de sa beauté à cette époque.
Tout à fait, oui.
Et donc, si les éditeurs nous écoutent, allez, Angélique, Marquise des Anges.
Voilà, on écoute Michel Magne.
Eh bien, après Angélique, Marquise des Anges, mise en musique par Michel Magne, nous allons parler des films qui seront à l'affiche dans nos salles à partir de mercredi. Alors, on sait déjà qu'il y a comme une grosse sortie ce mercredi, Laurent va vous en parler, c'est The Bike Riders. Mais pas que. Alors, Laurent, je te laisse la parole. Quels sont les films qui sortent mercredi prochain? Oula, il y en a beaucoup. Je vois que tu comptes.
Oui, il y a une douzaine de sorties.
Petite douzaine, d'accord.
Tu l'as annoncé. Donc, ce film de Jeff Nichols, The Bike Riders, qui sort donc mercredi.
Et donc, avec une belle distribution, Tom Hardy, Austin Butler. Moi, ça m'a fait penser à la bande-annonce à ces films de bikers, style le film avec Marlon Brando, par exemple, tu vois, des choses comme ça. Je pense qu'on va retrouver un peu cet esprit.
Oui, voilà, ce film de motard qui s'inspire d'un livre de photos mythiques de Danny Lyon, le réalisateur de Mood et de Take Shelter, pardon, qui a divisé le public. Mais bon, Take Shelter, en tout cas, de mémoire, j'avais...
Take Shelter avec Michael Shannon, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans Bike Riders. Et Mud, c'était Matthew McConaughey. Deux films qui ont révélé ce réalisateur, parce que des films assez marquants tout de même.
C'est vrai. Autre sortie, nous avons, c'est pas une suite, mais ça fait partie de la série des films d'animation. Le précédent avait été pas mal. C'est Détective Conan, l'étoile à $1 million. Ouais. Donc il sort mercredi de Chika Nagaoka.
D'accord. Bon, il faut savoir d'ailleurs qu'actuellement en salle, il y a un animé qui casse la baraque, c'est IQ. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très très fans de IQ, donc une histoire de... ça se passe dans le milieu du volleyball. L'année dernière, on avait eu Slam Dunk avec le basket, et là, c'est le volley avec ce IQ qui est actuellement en salle.
Le dernier film d'Olivier Assayas, ça s'appelle Hors du Temps, qui raconte, avec Vincent Macaigne d'ailleurs, au passage. Je sais pas si vous vous souvenez, je pense que si quand même. C'est-à-dire que lors du premier confinement, pour éviter la propagation du Covid, les habitants des grandes villes, soudain effrayés à l'idée de vivre entre les quatre murs de leur appartement, rejoignaient à la hâte leur résidence secondaire. Promesse d'un calvaire au vert, et donc l'injustice sociale que ce mouvement d'humeur rendait saillant invité à la retenue. Et donc Olivier Assayas, lui, était parti avec son frère et leur compagne respective dans la maison familiale de la vallée de Chevreuse. Voilà, et donc 4 ans plus tard, toute honte bue, le cinéaste sort du bois et nous pend une fiction auto-centrée sur cette vie mouvementée au grand air.
Oui, effectivement, on est un peu dubitatif, mais bon. à voir, sans doute. Pour Olivier Assayas, qui sait.
Bon, autre film français de Jessica Palud, c'est Maria, film qui a été présenté au Festival de Cannes, et donc qui adapte en fait le livre de Vanessa Schneider, Jessica Palud, qui s'empare du destin fracassé de Maria Schneider, longtemps uniquement réduite au dernier tango à Paris, de Bertolucci. Et donc là, pour le coup, certains peut-être regretteront le côté un peu scolaire de l'ensemble, mais l'essentiel est ailleurs, et dans la manière dont Palud s'empare de cette histoire, dans son désir de faire entendre sur grand écran la parole d'une jeune femme qui a exprimé sur le moment sa douleur, sa rage sur les humiliations subies sans être entendue, et donc en mettant des mots sur des mots M-A-U-X, Maria ne raconte pas une victime, mais célèbre une résistante tombée sur le front de l'indifférence.
Oui. Bon, bah, c'est à voir sans doute. Hein. C'est vrai qu'on se souvient évidemment de Maria Schneider. Donc, il y en a qui ne la connaissent pas encore, mais je pense que ça va être intéressant de ce portrait.
Autre film de Milio.
C'est pas facile des fois.
De Milio Chiarini. Oui. qui s'intitule Mon Milieu, donc qui sort le mercredi, lui aussi. Alors là, pour le coup, eh bien, ce sont des retrouvailles entre frères avec l'émotion et le vertige d'une séparation longue de 20 ans de prison. Et Nico était gamin lorsqu'il y est entré, mais rien n'a changé, sauf lui, qui est devenu adulte, raisonnable et repenti, et jusqu'à ce que sa liberté retrouvée vire au règlement de compte sur fond de banditisme marseillais. Et puis, autre film de Michael Perret, Natura, où on a, je n'ai pas grand-chose, en tout cas concernant ce film.
Ah oui, oui Natura, oui, c'est un film... plutôt fantastique, me semble-t-il. C'est un, je crois que c'est un premier long, en fait, Natura. C'est un film où on retrouve donc une jeune comédienne, Mania Muse. Et voilà, c'est un film autoproduit par Michael Perret et qui, c'est un survival, en fait, qui se déroule dans le massif des Vosges. Et voilà, et c'est un, alors c'est un film qui est sorti, qui va sortir dans très très peu de salles en France. Je crois qu'il sort, par exemple, à Paris, il ne sortira qu'au cinéma Saint-André-des-Arts. Ouais, mais c'est un, voilà, c'est un film peut-être un peu maladroit, mais on sent comme la volonté du réalisateur, voilà, de proposer un film riche. Il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme là-dedans, dans ce projet, qui est imparfait, mais enfin voilà. Donc moi, je pense que, en plus, l'actrice apparemment a l'air tout à fait excellente. D'ailleurs, apparemment, le réalisateur a peut-être un peu trop filmé de façon complaisante, on va dire, sa comédienne principale. Voilà, donc Natura, voilà, un survival dans les Vosges. Bah écoute, voilà.
Parfait.
Pourquoi pas ?
Et donc, un autre film où je n'ai pas grand-chose, de Patrick Tam, c'est Nomade. Voilà, ça sort mercredi.
Oui, alors Nomade, effectivement, là aussi, on. Alors, ça, c'est un film, en fait, c'est une reprise, parce que c'est un film qui est un film de Hong Kong, réalisé en 1982 par Patrick Tam, et avec dans le rôle principal un acteur qui, par la suite, va avoir une carrière dans le cinéma de Hong Kong tout à fait impressionnante, c'est Leslie Cheung. Hein, voilà, donc c'est un réalisateur Patrick Tam qui est un des réalisateurs de la nouvelle vague hongkongaise des années 80, mais peut-être moins connu que d'autres justement. Voilà, donc c'est pas vraiment un film fantastique, c'est des jeunes en fait qui c'est la relation entre une jeune femme et un jeune homme, qui voilà, c'est un peu leur histoire d'amour, voilà, j'ai pas trop d'infos. Ce que je sais, j'ai entendu dire qu'il y avait un côté Wong Kar-wai un peu dans le film, tu vois.
Ça donc, peut être intéressant,
ouais. Ouais, et voilà, donc c'est voilà, avec une petite touche d'érotisme. Voilà. Donc, un film de Hong Kong à surveiller. Ça, peut-être, ce Nomade, j'avoue que je vais y prêter attention.
Et donc, mercredi, il y a aussi pas mal de films français. Entre autres, ce film de Vincent Capellio, Nouveau Monde, avec Raïd Raimi et Sandour Funtek. C'est un premier long. Et qui raconte le destin d'un Afghan qui a fui donc son pays pour Paris et où il tente de s'intégrer avec l'aide d'un jeune homme débrouillard qu'il a pris sous son aile. Et donc, remarquablement interprété, ce récit aux nobles intentions, mais jamais mièvre, peine cependant à faire entendre sa singularité face aux récents films comme Ils sont vivants, Les survivants, Quelques jours, pas plus, voilà, qui ont su trouver un angle très affirmé pour aller au-delà de la tragédie des situations rencontrées. Et autre film de Karim Bensalah avec Hamza Meziani Et Kader Afak, c'est 6 pieds sur terre. C'est aussi un premier long qui fait écho d'ailleurs au dernier des Juifs de Noé Debré, dans cette façon tragicomique de montrer des jeunes gens pas forcément héroïques, voire apathiques, refusés de se soumettre à ce que leurs origines semblent exiger d'eux. Et donc Sofiane, qui est le fils de diplomate algérien, qui bosse dans des pompes funèbres musulmanes pour se tirer d'une mauvaise passe. Et donc voilà, un petit peu le pitch de ce film. Et puis un autre film de Zacharias Mavroidis, c'est The Summer with Carmen. Ben, j'ai pas grand chose dessus non plus.
Je pense que j'ai pas d'informations non plus sur ce film.
Ah, si, c'est une comédie. C'est une comédie queer autour de l'écriture d'un scénario qui séduit, donc par sa manière assez rafraîchissante, de filmer les corps dénudés. C'est l'été à Athènes et deux amis homosexuels, Demos et Nikitas, le consacrent à l'écriture d'un scénario censé obéir à la requête du producteur français qui le finance. Qu'il soit drôle, sexy, grec et à petit budget. Voilà le départ de cette comédie à plusieurs strates, un film sur un film en train de s'écrire en s'inspirant d'un film qui n'a pas vu le jour, celui que Demos et Nikitas avaient tenté en vain de développer 2 ans plus tôt. Voilà. Donc c'est un film qui est construit en fait sur des flashbacks qui revenant sur des événements de cet été-là, celui où Demos avait toutes les peines du monde à se remettre de sa rupture avec son petit ami Panos, dont il avait recueilli la petite chienne.
Oui, c'est un film qui a l'air assez, assez touchant, finalement.
Ouais, film grec.
Film grec, donc à découvrir, je pense. En plus, je crois que les acteurs principaux sont vraiment excellents.
Oui, il y a Yorgos Tsantoulas, Andreas Labropoulos et Roubini Vassilak. Vassilak Poulou.
Ah, c'est pas facile, là, le grec. Hein.
Non, il va falloir que je travaille ça.
Ah oui, non, mais tu vois, moi, j'ai fait du grec au lycée, moi, donc j'ai fait mes lettres classiques.
Et donc, pour en terminer, alors, il y a 3 films dont je pourrais pas vous donner vraiment beaucoup d'infos. Alors, il y en a un, c'est la grosse sortie aussi de ce mercredi, nouvelle production Pixar. Et là, on fait pas trop dans l'originalité, c'est Vice Versa numéro 2, hein.
Oui.
Voilà, de Kelsey Mann. Et il y a aussi un film de Frédéric Jardin, Survivre. Et l'autre film, c'est Sinjar, Naissance des fantômes, d'Alex Lieber. Voilà.
Oui, Survivre. Là aussi, c'est un survival. Ouais, tout d'un coup, voilà, les polarités de la Terre sont inversées. Du coup, les océans se retirent. Enfin, bref, l'histoire d'une famille qui se retrouve, donc qui fait une croisière et puis qui se retrouve en plein désert, du coup, et qui est attaquée par des créatures. Voilà, bon, bref, un survival. Donc, on a un survival dans les Vosges. Hein, ça, c'est Natura, et un survival avec Survivre. Il y a Emily Deken dans Survivre aussi. J'aime bien cette actrice. Et ben voilà, pas mal de films. Hein. Notre émission se termine, mon cher Laurent.
Ben oui, il faut toujours une. Aux bonnes choses, il faut toujours une fin.
Mais ce n'est qu'un au revoir, car on se retrouve lundi prochain.
Et donc,
pour la dernière, d'ailleurs, par contre.
Aller fréquenter les salles. Juste avant, en fait, la fête du cinéma.
Et oui, ouais. Exactement. D'ici là, eh bien, c'est la fête de la musique, je crois, c'est le 21. Ça, c'est
tous les 21. Sous peu. C'est tous les 21. L'agenda ne change pas.
C'est fou, ça. Hein. Et effectivement, ce sera bientôt la fête du cinéma. On vous en reparle, évidemment, puisqu'à cette occasion, les places seront à prix réduit. Mais voilà, on va vous souhaiter effectivement une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de RTF. Une excellente semaine, oui, dans les salles obscures, mon cher Laurent. Et je te souhaite aussi une excellente semaine, bien sûr. Ben,
toi aussi. On va essayer de prendre un petit peu le frais, voilà.
Oui, voilà. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Enfin, bon, il va faire chaud, mais ce sera chaud et humide, apparemment.
Ouais.
C'est surtout ça.
Allez, bonne toile. Ouais. Fréquentez bien les salles obscures, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de films à voir. Et nous, on se donne rendez-vous lundi prochain pour la dernière. Salut. Voilà.